Chapitre 51. Trois gorgées d'orge brûlante. Solario tendit la main à l'ado historien pour l'aider à atteindre le sommet de la colline.
« Comment t'as fait pour nous rejoindre ?»
s'étonna le ministre des Voyages.
« Angénor a interdit à tout le monde de sortir seul du château. Et tu dois être particulièrement surveillé par les soldats et le grand contrôle depuis qu'Angénor a fait de toi le grand espion de Luponero. »
Valère se contenta de sourire et de hausser les épaules avec le détachement de celui qui ne remarque même plus ses super-pouvoirs. Sabi sauta sur ses pieds, pria à son tour la main de l'historien et le força à s'asseoir au milieu d'eux.
« Je vous signale, » fit la Lolly Girl, « que Nonor a interdit de sortir seul, pas de se promener seul une fois qu'on est dehors. J'ai prêté à ma fraise des bois quelques copines, Estive, Lunella et Suzy, pour qu'ils quittent le château sous leur escorte. Puis il les a laissés aller chasser les licornes près du lac inférieur et il nous a rejoints. »
Tout paraissait toujours si simple avec Sabi.
« Je l'ai invité pour qu'il nous parle de Lupo, » précisa encore la Lolly Girl. « Installe-toi, prends un gobelet d'orge brûlante et dis-nous, qu'est-ce qui t'a pris, ma fraise des bois, d'aller en secret dans la jungle prendre des cours de Tarzan ?»
L'historien semblait maintenant intimidé. Il but deux gorgées d'orge fermentée avant de commencer à parler.
« La construction du nouveau monde passera forcément par une connaissance des forces de la nature. Celles que les hommes d'avant le passage du nuage ont oubliées, ce sont ces forces que Luponero maîtrise. Ce sont elles que je voulais connaître, pour ne pas renouveler les erreurs du passé. L'histoire de l'humanité, je l'avais déjà apprise, mais son avenir... »
Valère parut presque s'excuser.
« Je ne pensais pas que Vanille et son grand contrôle me suivraient. Je n'ai pas été assez méfiant. Vous voyez, c'est exactement ainsi le début d'une dictature. On ne se méfie jamais assez. »
Il vida son gobelet d'orge brûlante et toussa. Il était plus rouge que jamais.
« Sabi, tu te souviens de ce que j'ai dit il y a quelques mois ?»
La Lolly Girl battit des paupières comme pour lui répondre qu'elle avait une mémoire de papillon. L'historien parut un instant troublé par ses œillades, mais se reconcentra, toussant pour s'éclaircir la voix.
« Je t'ai dit que Génor se prenait pour un empereur avec son diamant, le régent, incrusté au bout de sa canne. Et depuis qu'il a appris qu'il est le fils de Marie-Lune, je crois que c'est encore pire. Tu te rappelles la méthode utilisée par tous les dictateurs pour arriver au pouvoir? Elle est toujours la même. Faire des chouchous et des jaloux. C'est sa règle numéro un, en rendant plus strictes les corvées et en distribuant des bons et des mauvais points. Trouver des boucs émissaires, des ennemis de l'intérieur, c'est sa règle numéro deux, qui autorise à fouiller dans la chambre de n'importe qui pour pouvoir l'accuser. Désigner aussi des ennemis de l'extérieur, Lupo ou les Prémas, c'est sa règle numéro cinq, qui interdit à quiconque de sortir sans être accompagné, pour faire croire qu'on serait entouré d'un terrible danger. Et ce n'est que le début. Il va aussi interdire toute prise de parole qui n'est pas d'accord avec la sienne. C'est ce que va permettre sa règle numéro 3, en classant top secret tout document compromettant et en gardant le contrôle de l'information. Et enfin, bien sûr, inventer des croyances, des superstitions, un culte de la personnalité, sa règle numéro 4. Tout manque de respect à la mémoire de Marie-Lune sera puni. Et voilà, le tour est joué. 5 règles toutes simples, dont personne ne se méfie, dont personne ne devine la gravité, et tout est en place pour qu'Angénor puisse prendre le pouvoir. »
Alix allait réagir. Même si elle se méfiait d'Angénor, même si elle connaissait son ambition, il avait toujours été un conseiller soucieux de respecter la liberté de tous. Valère, à force d'étudier l'histoire, les guerres et les grandes trahisons, n'avait-il pas tendance à devenir un peu parano? Ils n'étaient que des ados. Ok. Elle n'était pas toujours d'accord avec son conseiller, mais de là à penser qu'il serait une sorte de tyran voulant régner sur le monde entier... Elle n'était pas la seule à raisonner ainsi, à en juger par les mots sceptiques de Zizo, Akan, Sabi, Solario et Agnel. Valère s'en aperçut et les défia du regard.
« Vous voulez un exemple? Un scoop de dernière minute ?»
lança l'historien. Tous hochèrent la tête.
Ce soir, juste avant que je sorte du château avec les Lollygirls, le grand contrôle, sur ordre d'Augenor, a confisqué les bandes vidéo des caméras de surveillance de la clinique des Immortels, celles sur lesquelles travaillaient les savants, pour en apprendre enfin un peu plus sur les Prémas. Une expression de stupeur traversa le visage des six ados, particulièrement celui de Solario. Liu était furieux, continua Valère. Il a assuré qu'ils étaient presque parvenus à faire fonctionner un ordinateur capable de lire les films, mais Vanille n'a rien voulu savoir. Règle numéro 3. Il s'agit d'un document top secret. Que Liu leur fasse signe quand son ordinateur tournerait. Pour l'instant, le grand contrôle plaçait les documents en sécurité.
C'est-à-dire ? Demanda Akan.
Dans la chambre du roi, celle de Génor. Un coffre gardé nuit et jour par des soldats.
Valère savoura quelques instants l'effet de son scoop. Il admira le profil de Sabi, éclairé par la seule lueur de la lune. Son ventre le brûlait comme s'il avait bu une bouteille entière d'orge brûlante, et se crut autorisé à en rajouter.
Méthode classique. Augenor n'a rien inventé. Sa prise de pouvoir peut se comparer à celle de tous les tyrans depuis la nuit des temps. César, Néron, Caligula, un Florentin. Machiavel a écrit à ce propos, il y a plus de 500 ans, un petit livre passionnant, « Le prince » qui, Sabi lui fourra une tranche de melon dans la bouche pour le stopper. « C'est bon, arrête ton numéro et parle-nous de Lupo. »
« Quoi ?»
fit l'historien en recrachant la moitié des pépins.
« Pourquoi crois-tu que je t'ai invité ?
Pour que tu nous parles des lunettes noires du roi Soleil et du chien-chien de Napoléon ?»
Les melons étaient immangeables, durs et sans goût, avec plus de pépins que de chair.
Je t'ai invité, ma fraise des bois, pour que tu nous répètes tout ce que t'as raconté Lupo Nero.
Tout le monde sait que Lupo a été élevé seul par son papa, et que son papa était le dernier adulte vivant. Tout le monde sait aussi que Lupo Nero se souvient de lui. Donc, si quelqu'un sait ce qui s'est passé juste après le passage du nuage, c'est notre enfant sauvage!
Valère se mordit les lèvres. Il évalua tour à tour chaque membre de l'Assaza, comme s'il recherchait un traître parmi eux, épia les alentours, écouta chaque bruit de la forêt, puis, enfin, baissa la voix, invitant les six autres à se rapprocher. Valère était au centre du cercle, au centre du plus grand des secrets. Il était là où il avait toujours voulu être. Celui qui remonte dans le passé, loin, le plus loin possible, aux confins de l'origine du monde, et qui en revient pour influencer l'avenir. Les six résistants formaient une chaîne autour de lui, impatiente et passionnée. S'il le fallait, il en était persuadé, il le protégerait. Valère avala une dernière gorgée d'orge fermentée.
« Je vais tout vous raconter. » Le père de Lupo Nero était l'un des derniers adultes vivants. Ils étaient très peu nombreux, dans Paris au moins. Ailleurs, Lupo n'en a aucune idée. Le père de Lupo Nero avait préféré fuir la ville et sauver son enfant, seul. Lupo avait un peu plus de 8 ans quand son père est mort. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il ne fêtait pas le birthday en forêt. Il se souvient que son père s'était mis petit à petit à tousser, comme tous les autres adultes avant lui, puis à ne presque plus pouvoir marcher. Son père lui a dit adieu un matin avant de nager le plus loin possible dans le lac. Lupo ne l'a jamais revu.
« Il nous l'avait raconté, » fit doucement Agnelle, « il y a 2 ans, quand on l'a croisé la première fois dans la forêt, en recherchant le sang jaune des animaux empoisonnés. »
Les yeux de Valère pétillèrent. Jamais il n'aurait l'occasion de retrouver devant lui un auditoire aussi captivé.
« Mais ce qu'il ne vous a pas dit alors, » poursuivit l'historien avec délice, en faisant traîner chaque mot comme s'il s'agissait de berlingots sucrés à sucer, « c'est qu'avant de disparaître, son père lui a parlé, longuement. »
J'ai mis des mois à gagner la confiance de Lupo Nero, des mois à le convaincre, séance après séance, qu'il ne devait pas garder son récit pour lui, surtout aujourd'hui.
« Alors vas-y !»
s'énerva Sabi en attrapant un melon et en croquant dedans à pleines dents. Tant pis s'il était dégoûtant. Valère prit encore le temps de tremper ses lèvres dans le fond d'orge brûlante de son gobelet, de distinguer les cris d'animaux nocturnes dans l'obscurité. Lupo, en plus de ses secrets, lui avait enseigné la contemplation, la patience, le contrôle de soi-même en toutes circonstances.
Les rares adultes qui survivaient dans Paris se connaissaient. Parmi eux, il y avait un couple d'ingénieurs, Pierre Sol et Marie-Lune. Grâce à leur connaissance sur les épidémies et les maladies parasitaires, ils avaient été parmi les premiers à réagir après le passage du nuage et à trouver des remèdes pour retarder la maladie. Ils comprirent qu'ils disposaient d'un court sursis, de quelques mois, quelques années peut-être. Dans l'urgence, ils ont tenté de mettre en place les conditions de survie du maximum d'enfants qui naîtraient après le passage du nuage. Un lieu à l'abri pour dormir, pour manger, mais aussi pour étudier, apprendre à se débrouiller seul, et surtout conserver au maximum la mémoire du monde d'avant. C'est pour cela que le Louvre a été choisi comme refuge et qu'ont été mis en place tous ces rites tels que le birthday, la veillée du sanctuaire, le tournoi de l'étoile et bien entendu le soleil de fer pour leur fournir de l'énergie.
Valère épia de nouveau les piaillements, cris et gazouillis dans l'obscurité. Il plissa toutes les rides de sa grosse tête ronde, essayant maladroitement d'imiter les mouvements des traits du visage de Lupo Nero quand il était aux aguets.
« Pierre Sol était marié avec Marie-Lune, » bafouilla Zizo. « Je croyais qu'ils étaient des ennemis jurés. »«
Ils le sont devenus après, »
précisa Valère. Lupo n'a pas tous les détails. Son père s'était justement éloigné de toutes ces querelles d'adultes pour s'occuper exclusivement de son fils. Mais d'après ce dont il se souvient, il y avait trop d'enfants à sauver dans Paris, et trop peu d'adultes pour s'en occuper. Il y a eu un schisme, une rupture si vous préférez. Marie-Lune ne voulait sauver que quelques enfants, une centaine, dans les conditions les plus idéales pour leur laisser le plus de chances possible de reconstruire un nouveau monde. Pierre Sol, lui, voulait tous les sauver, n'en sacrifier aucun du moins. La plupart des savants se sont rangés derrière Marie-Lune. Et quelques-uns, avec Pierre Sol, se sont débrouillés comme ils ont pu dans les rues de Paris avec tous les autres. Mais je crois que la suite de l'histoire, vous la connaissez déjà. En effet, pensa Zizo, le récit du père de Lupo Nero confirmait en tout point celui de Pierre Sol.
« Et le père de Lupo Nero dans tout ça ?» demanda Agnel.
Des corneilles, à peine effrayées, venaient de se poser près d'eux et picoraient les miettes de leur pique-nique.
« Comme je vous l'ai dit, il a décidé de ne pas prendre parti et s'est isolé pour élever son enfant unique en forêt. Miraculeusement, il a survécu plus longtemps que tous les autres.
« Je ne crois pas au miracle !» souffla Solario.
Le récit du père de Lupo Nero confirmait en tout point celui de Pierre Sol, continuait de réfléchir Zizo. À une petite différence près, Pierre Sol, dans son journal, avait oublié de préciser sa relation intime avec Marie-Lune, à moins de savoir déchiffrer convenablement les hiéroglyphes dessinés sur la couverture. Un homme debout, lui, une femme allongée, Marie-Lune, représentée dans son cercueil, ou en train de donner la vie à un enfant.
Donc, fit Zizo à voix haute, Ogénor est le fils de Marie-Lune et de Pierre Sol.
Sabi siffla d'admiration.
Excellente déduction, petit crapaud.
Zizo continua à s'en relever. Et si Marie-Lune ne connaît pas le prénom de sa fille, rappelez-vous ces mots gravés sur son sarcophage. Toi, ma fille chérie, dont j'ignore le nom qu'on t'a choisi aujourd'hui. C'est parce qu'elle a été élevée par Pierre Sol, dans le tipi. Exactement comme pour un divorce, chacun a gardé l'un des enfants, à jamais séparés.
Mordélia, fit Akan. La fille de Pierre Sol et Marie-Lune est forcément Mordélia. C'est son père qui lui a laissé ce livre. Elle était si jeune qu'elle n'en a pas le moindre souvenir. J'espère au moins qu'il a eu le temps de lui apprendre.
Il prit une longue respiration, Sabi le regarda avec inquiétude.
a aimé ?»«